France Inter.
Le journal de 13h vous est présenté par Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, l'homme en noir s'est éteint. Thierry Ardisson, figure du petit écran, taulier d'émission culte, aussi inventif que provocateur jusqu'à parfois franchir les lignes. Il a contribué à écrire l'histoire de la télévision française. Salut l'Élysée ce matin. Retour sur une riche carrière. Dans un instant, Thierry Ardisson avait 76 ans. L'actualité, c'est aussi le défilé du 14 juillet et une nouvelle contrainte budgétaire, la hausse de l'enveloppe de la défense, 6,5 milliards d'euros de plus à trouver d'ici 2027. Les États-Unis vont livrer, mais l'OTAN va payer les systèmes de défense promis à l'Ukraine. Et puis le Tour de France cycliste attaque la montagne aujourd'hui. Dans le Massif central, il fera chaud mais nuageux. Le point complet sur le temps, ce sera à la fin de ce journal.
Inter.
C'était en mai dernier, Thierry Ardisson faisait le tour des plateaux pour parler de cette autobiographie fiction, L'homme en noir, crépusculaire, il avait 76 ans. Avait-il peur de la mort? Question posée par Léa Salamé.
Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que comme je dis souvent, de toute façon tout le monde meurt. Je veux dire, même Napoléon, qui était quand même un mec puissant, il est mort.
Il est mort.
Donc à partir du moment où tout le monde meurt, à part Jésus, tout le monde est mort.
Mais vous n'avez pas peur de la mort? Il y a quelque chose
donc
où
j'en
vous...
J'en ai peur ou pas, ça ne changerait rien de toute façon. Donc je préfère ne pas en avoir peur, c'est comme le pari de Pascal. C'est-à-dire, croire ou pas croire, oui, bah, c'est mieux de croire parce que ça enchante le monde. Et la mort, bah, c'est mieux de ne pas en avoir peur, de toute façon on va mourir.
Thierry Ardisson qui était donc à votre micro. Léa Salamé, bonjour Léa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct quelques heures après l'annonce de la disparition de l'animateur. Il avait 76 ans, un cancer du foie. Juste avant de vous donner la parole, Léa, revenons avec vous. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour Hélène, bonjour à
sur
tous.
Sur sa carrière, la carrière de cette figure de la télévision française, lui aurait dit star du PAF. Il faut reconnaître que ses émissions ont bousculé le paysage audiovisuel.
Mais c'est ce qu'il voulait, hein, avec ses punchlines et ses interviews décalées qui attirent des invités de marque, comme dans son émission Tout le monde en parle sur France 2.
Voici George Michael, Jane Fonda, j'accueille Robbie Williams, Mikhail Gorbatchev, voici Angelina Jolie.
Thierry Ardisson traverse un demi-siècle de télévision avec plusieurs émissions, par exemple Lunettes noires pour nuit blanche, présentée depuis la boîte de nuit parisienne Le Palace.
Salut les petits gars, aux armes etc, voilà le roi. YouTube en barre, Gainsbourg. L'ami Cahouette, Cacahuète se fait Lunettes noires pour nuit blanche spécial Gainsbourg. Et c'est un scoop.
Un concept novateur comme Paris Dernière, où il se balade dans la capitale la nuit à la rencontre de ses invités.
Ardisson, salut.
Ça va?
Ouais, t'es le nouveau Smaïn, alors?
Non, le nouveau Smaïn, je suis Jamel. Jamel. C'est quoi, tu me choisis assis, tu me prends la tête, là?
Ah ouais, s'asseoir, ouais.
Toujours provocateur, au point de poser cette question devenue célèbre à Michel Rocard.
Et Sucé s'est trompé?
Eh, pardon?
Sucé s'est trompé?
Non plus.
Non plus, bravo.
Bon, l'animateur était aussi vivement critiqué pour sa complaisance avec certains invités problématiques, Gabriel Matzneff, Renaud Camus ou encore Dieudonné, mais aussi pour sa façon de recevoir les femmes sur son plateau, souvent moquées et réduites à leur physique.
Merci beaucoup Clémentine Sabrier pour ce condensé de la carrière de Thierry Ardisson. Léa Salamé, vous êtes toujours avec nous Léa.
Oui.
Qu'on aime ou pas le style Ardisson, ses émissions, c'est quand même une partie du patrimoine de la télévision.
Mais c'est une œuvre immense, une œuvre télé immense. Comme vous le dites, qu'on aime ou pas ces émissions, moi j'ai aimé ces émissions, j'ai grandi avec ces émissions. J'ai 45 ans et je fais partie de cette génération, on était très nombreux, où on ne sortait pas le samedi soir parce que ce qui se passait à la télé était plus intéressant que nos soirées, parce que il avait inventé et théorisé. C'était un concepteur absolument génial, insensé, qui avait plein d'idées. Il avait 15 idées à la minute, il disait lui-même, il y a une fulgurance et 15 déchets, mais en gros, il y avait des idées tout le temps. Et il avait théorisé ce concept de la télé il y a 25 ans, je vous parle de Tout le monde en parle, c'est-à-dire tu mets côte à côte autour d'une table un homme politique, un grand écrivain ou un intello, un cardinal et une call girl, et là tu auras le pouls de la société.
Et tout ça, ça fait de la télévision.
Chose.
Voilà, c'est le moment de télévision.
Et ça fait des spectacles et ça fait des moments de télé, et c'était ça Ardisson.
Est-ce que c'était un personnage plus complexe? On a brossé un peu certains de ses traits de caractère, à la fois inventif mais aussi mégalo, vulgaire, provoquant. Quel est le personnage que vous retenez, vous? Est-ce qu'il était plus complexe que l'image qu'il renvoyait?
Mais bien sûr qu'il était provocateur, bien sûr qu'il aimait la transgression, la subversion. Il me fait penser à cette phrase d'Oscar Wilde, « Je peux résister à tout sauf à la tentation ». Eh ben, Ardisson, c'était « Je peux résister à tout sauf à la transgression ». Il aimait ça. Il aimait pas quand c'était lisse, il aimait pas quand c'était tiède. Mais il y avait pas que ça. Et moi, les dernières années, alors je précise que j'étais pas une intime d'Ardisson du tout, j'ai jamais déjeuné avec lui, on n'a pas travaillé ensemble, mais c'est vrai que les dernières années, je l'ai beaucoup invité, que ce soit à la télé sur le samedi soir en lui disant que je lui rendais hommage à chaque fois, ou sur Inter, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez passé un extrait, mais ceux qui ont entendu cette interview incroyable, où ce matin-là, c'était en mai dernier, moi je ne savais pas qu'il était malade, où il y avait ce livre, il sortait ce livre qu'il voulait écrire très très vite, on a compris plus tard pourquoi il voulait le terminer très vite, et il voulait absolument venir sur la matinale d'Inter faire la promo, et moi j'avais dit mais on t'a déjà reçu il y a 8 mois Thierry, il a dit ouais, mais là j'ai besoin de venir, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. Il arrive le matin dans les couloirs d'Inter et il me dit où est Demorand, et je lui dis il est en studio, Thierry, on va rentrer dans le studio, tu le verras.
Et là, c'est le livre de Nicolas Demorand.
Il connaissait pas Nicolas. Le livre venait de sortir, il avait été bouleversé. Il a dit, j'ai été retourné, j'ai été tué par ce livre parce qu'on a appris, enfin, j'ai compris. Il lui a dit à Nicolas qu'en fait, sa mère était bipolaire et qu'il avait énormément souffert avec ses parents qui sont dans le livre où il les convoque au moment de sa mort, puisque ce dernier livre, il met en scène sa propre mort. Et il était bouleversé, il a pleuré à l'antenne. Vous avez, je sais pas si vous passerez les larmes où il est en larmes quand il pense à ses parents et il dit, mais c'est à cause du bouquin de Demorand. Et en fait, ça lui fait remonter ses souffrances d'enfant. C'était un moment extrêmement fort parce qu'on sentait là qu'on voyait autre chose, l'homme plus complexe, ultra sensible, timide, qui masquait sa timidité par de la provocation. C'était ça aussi Ardisson. Moi, je ne connaissais pas intimement, mais j'ai vu aussi l'homme amoureux de sa femme, Audrey Crespo-Mara, la présentatrice de TF1, la journaliste de TF1, qui venait partout. Elle était en coulisses tout le temps. Il la regardait, il cherchait son assentiment. Il y avait ça aussi, que les gens ne connaissent pas derrière les lunettes noires. Il y avait l'homme amoureux, l'homme ultra sensible, et le provocateur, et l'inventeur, et le concepteur de génie.
Merci beaucoup Léa. On va garder vos mots pour résumer cette carrière de Thierry Ardisson. Il avait des idées, voilà ce qu'il voulait qu'on dise de lui à sa mort, Thierry Ardisson. Ardisson, je le rajoute, qui était aussi des slogans percutants, qu'on connaît tous. La paire, il n'y en a pas deux, quand c'est trop pricot. Bah oui, parce qu'il avait commencé sa carrière en tant que publicitaire. Ça a d'ailleurs façonné sa signature télévisuelle. Thierry Ardisson, mort un 14 juillet à 76 ans, comme un ultime pied de nez, lui le royaliste. Convaincu. Nous sommes d'ailleurs en direct des Champs-Élysées pour ce 14 juillet avec vous. Bonjour William Delesseux. Je dirais même, William, que vous êtes tout en haut du toit de l'Arc de Triomphe, si nous sommes en ligne avec vous, aux premières loges de ce défilé militaire où plus de 7000 femmes et hommes, une centaine d'avions, d'hélicoptères, quelques 200 chevaux aussi ont défilé depuis le milieu de la matinée. Un défilé censé refléter la gravité des menaces pesant sur la sécurité du continent. On va voir si on peut être en ligne avec vous dans quelques instants, William Delesseux. Ah, mais vous êtes là, William.
En ligne, Hélène.
Et donc, en première loge.
Tout à fait, on est sur cette terrasse de l'Arc de Triomphe, absolument. On a suivi notamment toute l'équipe de contrôleurs aériens qui ont mis en scène ces défilés aériens auxquels on a assisté. Cette équipe a retenu son souffle pour lancer le ballet de 70 avions, dont 7 avions étrangers, certains impliqués dans l'OTAN à l'est de l'Europe. Tous ont fendu le ciel au top départ, le ciel de Paris, en commençant par la patrouille de France. Vous entendez 8 Alpha Jets. Ont laissé des traînées bleu, blanc, rouge dans le ciel. Bilan de celles et de ceux qui ont été les maîtres d'orchestre de ce saisissant défilé aérien du 14 juillet au pupitre de contrôle. La lieutenante Aurore et le lieutenant Daniel en lien avec les avions.
Ils s'annoncent les uns après les autres et on vérifie à la fréquence que tout le monde est là.
Eux, ce qu'ils attendent, c'est une heure de référence qui correspond au moment où notre président de la République s'assied pour qu'il puisse sortir des circuits d'attente dans l'ordre et avec un timing très précis en fait. Pour arriver sur l'axe des Champs-Élysées.
Et c'est donc une démonstration globale de ce que peuvent faire les armées, de leur capacité face à ce contexte mondial de plus en plus trouble. Le message est passé pour le général Xavier Buisson.
C'est effectivement un des objectifs, c'est de montrer, parce qu'on sait que énormément de radios, de télévisions mondiales sont à l'écoute, et l'objectif est effectivement de démontrer à ses compétiteurs nos savoir-faire, nos capacités, quel que soit le temps, les conditions dans lesquelles nous évoluons. Donc oui, il y avait vraiment ce message que nous souhaitions passer. Et je pense qu'aujourd'hui, il a été distinctement passé.
Un message de résilience, enfin, puisque c'est le Bleuet de France qui œuvre pour les blessés et les familles. Le Bleuet, 100 ans d'existence, a clôturé ce défilé au sol avec des parapluies ouverts, ainsi que dans les airs avec le nombre 100, tracé brièvement par trois voltigeurs.
Merci beaucoup, William Delesseux, en direct des Champs-Élysées avec Fabien Gosset. Pour être craint, il faut être puissant, disait Emmanuel Macron hier soir, pour justifier une nouvelle augmentation du budget de la défense. 3,5 milliards d'euros de plus l'année prochaine, encore 3 milliards de plus en 2027. Julien Nény du service politique est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Une contrainte de plus pour François Bayrou dans l'équation complexe du prochain budget.
Oui, ça ressemble très fort au titre d'un livre, tiens, de 2010, L'Enfer de Matignon, ou comment les difficultés s'amoncellent sur le bureau du Premier ministre. Il y avait déjà ces 40 milliards d'euros d'économies à trouver, les partenaires sociaux à ne pas froisser, les menaces de censure à esquiver, les nouveaux droits de douane de Donald Trump à intégrer. Voici maintenant donc pour François Bayrou ces crédits en plus dès l'an prochain pour le budget de la défense, un casse-tête de plus et une question à 1000 ou plutôt à 3 milliards et demi d'euros donc. Comment financer ce nouvel effort pour nos armées? Même si officiellement le président ne s'en occupe pas, il lui a quand même dessiné hier pendant son discours une sorte de feuille de route.
En tout état de cause, nous refusons que ce réarmement passe par l'endettement. Il sera donc financé par plus d'activités et plus de production.
Financer l'effort de guerre sans hausse d'impôts ni endettement supplémentaire, mais par plus d'activités et de production. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça veut dire tenir le cap de la politique de l'offre qu'il défend depuis 2017, façon aussi bien sûr de défendre son bilan jusqu'au bout, par exemple via une nouvelle réforme de l'assurance chômage, une piste forcément impopulaire mais sérieusement envisagée ces derniers jours au gouvernement. Alors qu'en sera-t-il demain après-midi? François le sait, il est envoyé au feu, souffle ce matin l'entourage du Premier ministre qui peaufine encore dans le secret les derniers détails de ses annonces, mais c'est le combat de sa vie, conclut la même source.
Merci beaucoup Julien Nény. Et alors que le ministère de l'Intérieur avait mobilisé hier soir pas moins de 53 000 policiers et gendarmes, déploiement extrêmement massif, de l'aveu même de Bruno Retailleau, la nuit de fête a été plutôt calme. Entre le bal des pompiers, les feux d'artifice, ceux qui ont été maintenus en tout cas, et le match de foot PSG-Chelsea, 80 personnes en garde à vue ce matin à Paris.
France Inter, le journal de 13h, Hélène Philly.
Il va donc les envoyer finalement. Donald Trump va livrer des systèmes de défense anti-aérienne patriotes à l'Ukraine. Le président américain l'a confirmé la nuit dernière au moment où son émissaire Case Kellogg faisait route pour Kiev et alors que Washington disait la semaine dernière vouloir tout suspendre. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Donald Trump ne dit pas combien il va en envoyer mais reconnaît que les Ukrainiens en ont désespérément besoin.
Oui, ils sont même essentiels ces systèmes de défense au moment où jamais les attaques aériennes n'ont été aussi forte sur l'Ukraine. Moscou bat chaque semaine des records en nombre d'engins tirés qui sont fournis ces engins par une industrie de défense, vous le savez, qui tourne à plein régime. Alors Volodymyr Zelensky l'a déjà dit, il faudrait au moins 25 systèmes patriotes pour défendre efficacement le ciel ukrainien. Or, il n'y en aurait, selon les spécialistes, qu'entre 4 et 8 actifs sur tout le territoire. Chacun coûte plus $1 milliard et chaque missile plus de 4 millions.
Et ces livraisons, Claude, c'est un sujet sur lequel Washington ne cesse de tergiverser.
Effectivement, une vraie volte-face après la décision de Washington la semaine dernière de suspendre les livraisons de certaines armes à l'Ukraine. Et c'est une décision qui aurait été prise, selon la presse américaine, après un rapport faisant état d'une pénurie de munitions dont le stock est largement diminué avec le soutien militaire des États-Unis à Israël. Alors, selon la Maison-Blanche, cette livraison fera partie d'un accord avec l'OTAN qui paiera les États-Unis pour ces armes qui seront donc envoyées à l'Ukraine. Le narratif de Donald Trump, c'est donc une vente, pas un don, du business, surtout pas une aide. Donald Trump, on le sait, ne veut pas être impliqué directement dans la guerre à l'Ukraine. Sa base ne le lui pardonnerait pas, à lui qui a fait campagne en promettant de sortir les États-Unis des conflits internationaux.
Décryptage signé Claude Guibal. Et face aux nouvelles menaces de droits de douane que Donald Trump brandit à l'Europe, 30% au 1er août, les ministres européens du commerce peaufinent aujourd'hui leur riposte à Bruxelles, pas forcément sur la ligne de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, pour l'instant, fait le dos rond, insistant sur le fait qu'elle préfère encore une solution négociée. Ça ravive tout de même l'inquiétude des bourses qui ont ouvert dans le rouge ce matin en Europe. Deux infos encore en bref. La fin de cavale, beaucoup moins rocambolesque que l'évasion de ce détenu à Lyon, caché dans un sac de linge de son voisin de cellule, libérable. Il avait réussi à se faire la malle vendredi dernier, arrêté ce matin à l'aube dans une commune de la banlieue lyonnaise. Son complice est encore recherché. Et puis Brigitte Macron va se pourvoir en cassation pour contester la relaxe en appel de deux femmes qui ont propagé sur Internet la rumeur selon laquelle la première dame était une femme transgenre. Ça commence donc à grimper sérieusement sur la grande boucle aujourd'hui. Hier, c'était une étape de sprinter écœurante pour Mathieu Van Der Poel, repris à 700 mètres de l'arrivée. Aujourd'hui, c'est le tour des grimpeurs. 10e étape du tour, tracée dans le Massif central, entre Enza et le Mont d'Or. Bonjour Nicolas Perronnet. Ça va donner le ton, Nicolas, des futures étapes de haute montagne.
Oui, c'est plus qu'une répétition, c'est vrai, c'est plus qu'un avant-goût, c'est une vraie étape de montagne aujourd'hui. Alors pas forcément en termes d'altitude, hein, même si le peloton va franchir pour la première fois la barre symbolique des 1000 mètres. En fait, c'est la répétition des cols qui rend cette étape très particulière. 8 difficultés sur 164 km, autant vous dire que les coureurs vont passer l'après-midi sur un toboggan et l'addition, elle va faire mal, hein, 4450 mètres de dénivelé positif au total. On est sur un total très proche en fait d'une étape de haute montagne comme on aura la semaine prochaine dans les Pyrénées et encore plus tard dans les Alpes. Il y a deux choses encore qui vont rendre cette étape difficile. La journée de repos placée demain, donc on ne va pas courir à l'économie, y compris pour le classement général. On pourrait avoir de la bataille et des écarts. L'équipe du maillot jaune, Tadej Pogacar, qui compte une minute d'avance sur ses concurrents, pourrait être attaqué. Et puis on est le 14 juillet, les Français vont vouloir se montrer, donc évidemment, sans doute une grosse bataille pour l'échapper. En tout cas, c'est une étape alléchante, comme souvent dans le Massif central qui débute. Le peloton quitte en ce moment le village d'Enza, direction le Mont d'Or.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Sur la moto de Julien Girard, on suit l'étape du Tour de France cet après-midi avec vous, à vélo, à moto, en camping-car aussi sur le bord des routes, parce que cette fois, ça y est, 14 juillet, 15 août, c'est le pic de la saison. 6 Français sur 10 en moyenne partent en vacances selon l'INSEE. Beaucoup en camping. On le sait, c'est une passion française. Même si les habitudes évolue. Cette année, la tendance repérée par les professionnels est celle du court séjour, y compris en mobilhome. Frédéric Collat est à Erdeven, dans le Morbihan.
On savait déjà les touristes prompts à réserver en dernière minute pour cette saison. Ils sont en plus devenus volages. Mathilde Le Pioufle est propriétaire du camping de la Croix-Villieu à Erdeven.
Ça dépend de la météo, ça dépend beaucoup du travail, du télétravail aussi beaucoup. Et puis ces touristes, ils sont assez itinérants. Ils aiment bien mettre à profit leurs 15 jours de vacances pour faire le maximum de choses, qui soient parfois instagrammables, diffusables, etc. Du coup, il ne faut pas juste voir la bête qui bronche pendant 2 semaines. Il faut voir la bête qui bronche, il faut voir le Finistère, il faut voir le Nord-Bretagne, il faut aller au Mont-Saint-Michel, etc. Donc voilà. Les 15 jours, c'est 5 fois 3 jours et c'est plus 15 jours.
Déborah, venue d'Ille-et-Vilaine avec sa fille Mila, en est le parfait exemple. Elle a réservé au tout dernier moment.
10 jours, ouais, à peu près 10 jours, une semaine à l'avance. Et après, on part pour 3 jours en van.
Le van, ça s'est décidé au dernier moment aussi?
Oui, je l'ai réservé hier. Voilà.
Loin d'être une mode, cette tendance a déjà été repérée en avant-saison. Après tout, c'est peut-être ça le camping, dit Mathilde.
C'est un comportement de campeur. Finalement, on veut des vrais campeurs en mobilo, mais on a le vrai comportement du campeur qui dit « bon allez, on y va ».
Pour s'adapter, la propriétaire du camping met ses mobilhomes disponibles quelques jours, ses trous de planning sur Airbnb. C'est un peu plus cher que si on réserve directement auprès du camping, mais ça marche.
Un reportage Frédéric Collat, ici Armorik, ex France Bleu, où il ne va pas faire très beau aujourd'hui, quelques nuages. Même quelques gouttes qui tombent en ce moment. On fait le point sur le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Souvent nuageux, mais ensoleillé quand même aujourd'hui autour de la Méditerranée.
Ah oui, plein soleil, ouais, en Méditerranée avec un vent d'ouest du Var à la Corse. C'est très nuageux sur l'Aquitaine et le Limousin. Très nuageux aussi de l'intérieur de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie. Au passage, une perturbation qui ne donne que quelques gouttes. En ce moment, du Morbihan vers le Cotentin. On a du vent sur ces régions, un vent d'ouest jusqu'à 50 km à l'heure, parfois 60 vers la côte d'Opale dans l'après-midi. Des éclaircies reviennent quand même progressivement sur l'ouest de la Bretagne. Sur le reste du pays, un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies. C'est plus nuageux vers le Grand Est avec un risque d'averse et d'orage. Pareil pour le Massif central et l'Est des Pyrénées. Une averse possible aussi sur les Alpes. Et puis il fait moins chaud qu'hier, sauf sur le Sud-Est. 21 à 25 degrés près de la Manche, 24 à 30 sur la plupart des régions. On ira jusqu'à 28 à 34 autour de la Méditerranée. Et puis demain, alternance de nuages et d'éclaircies quasiment partout, mais du soleil et de la chaleur en Méditerranée.
Merci beaucoup, Élodie Calac, Météo France.